Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une belle histoire, comme un roman, comme un conte presque des mille et une nuits. C'est la reine probablement la plus connue au monde, la plus célèbre, mais aussi la plus discrète. Pour nous parler de cette reine au destin exceptionnel, eh bien, moi j'ai toujours envie de m'appuyer sur un homme d'histoire exceptionnel, au talent d'écriture fabuleux et surtout avec cette précision et cette minutie des détails. J'ai toujours l'honneur et le plaisir de recevoir et je suis ravie qu'il continue à me faire confiance au fil des années pour nous parler de cette monarchie qui lui tient tant à cœur et je reconnais, moi aussi. Bonjour Monsieur Jean Descartes.
Bonjour Madame Buga, ça fait plaisir de vous entendre, tous mes voeux, bonne année.
Merci à vous aussi. Alors nous nous retrouvons pour ce magnifique livre sur Élisabeth II d'Angleterre, La Reine aux éditions Perrin. Alors c'est un livre exceptionnel parce que d'abord il est écrit par vous, il est illustré de nombreuses photos très détaillées. On va parler de cette reine fort discrète qui est, je le disais en préambule, fort probablement la plus connue au monde. C'est un travail de fourmi qui vous a demandé combien de temps de travail, Monsieur Jean Descartes ?
Oui, écoutez, je n'ose pas dire des années, mais c'est un peu le cas entre les voyages, mon intérêt pour la famille royale britannique, mes enquêtes, les audiences, des reportages, des interventions médiatiques diverses. La raison principale, si vous voulez, c'est de penser que cette femme qui est reine par un accident de l'histoire, qui n'aurait pas dû régner, et depuis 67 ans dans le paysage mondial, et que, hélas, il arrivera un jour où elle n'y sera plus, oui. Et que le monde aura alors changé et perdu d'un de ses repères incroyables, que ce soit les chapeaux colorés de la reine ou l'abnégation de sa majesté en passant par tous les événements qu'elle a vécu. Et avec l'accident très récent, il y a 5 jours, du duc d'Édimbourg au volant, oui. Dont la voiture a fait plusieurs tonneaux, on peut se dire que la reine a certainement eu très peur. Ils sont mariés depuis 72 ans. C'est un couple qui a été très très uni face aux épreuves en tout genre qu'ils ont vécues, bien entendu. Et je pense, si vous voulez, que c'est la reine a une leçon de sagesse politique extraordinaire pour une première raison, qui est d'ordre constitutionnel. Depuis le règne de Victoria, sa trisaïeule, le souverain britannique dispose de 3 prérogatives, ce que les Français oublient toujours. C'est le droit d'être informé, le droit de consulter et le droit de mettre en garde. Autrement dit, quand on dit là-bas, outre-Manche, le gouvernement de Sa Majesté, c'est exact dans la mesure où c'est elle qui nomme le Premier ministre, qui le charge de sa mission, et elle est au courant de tous les dossiers puisqu'elle reçoit tous les jours dans les fameuses royal boxes en cuir rouge frappées à son monogramme les rapports des services diplomatiques, de renseignements, des débats au Parlement, des propositions du gouvernement. Elle est informée de tout et elle travaille beaucoup. Elisabeth II a toujours été très très consciencieuse et princesse héritière, elle l'était déjà. Et donc elle propose les solutions, c'est le gouvernement évidemment qui décide. Donc c'est une femme qui travaille beaucoup et qui a réussi à transformer son pouvoir apparent, qui n'est pas du tout une absence de pouvoir, c'est une influence, ce qui est beaucoup plus subtil, en réalité. En plus, si vous voulez, elle défie le temps, oui. Parce qu'elle a eu l'intelligence de marier la tradition à la modernité. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir ses réflexes pour épouser l'air du temps sans massacrer la tradition. Oui. Eh bien, par exemple, le 2 juin 1953, jour de son sacre et de son couronnement, elle a souhaité que la cérémonie soit télévisée,
oui.
Ce qui était une révolution.
Ah oui, j'imagine.
Et elle a fait donc de ce rite un spectacle, sauf pour la partie mystique que sacrée qui a été filmée sous un dais, mais le soir même, les bobines de film en 16 mm en couleur, c'était diffusé en noir et blanc, mais ça avait été enregistré en couleur, partaient pour tout l'univers sous l'obédience britannique, y compris au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et c'est devenu un spectacle, et je me souviens très bien, moi je l'ai vu, j'avais 10 ans,
oui.
Je l'ai vu à l'Olympia à Paris, on allait voir le spectacle du couronnement de la reine, qu'on dit d'Angleterre en France, qui est toujours une erreur, c'est la reine du souverain du Royaume-Uni, enfin encore unie à l'heure où nous parlons.
Tout à fait. Alors moi ce qui me fascine, et je suis sûre que je ne suis pas la seule chez Elisabeth II, c'est que si l'on est un tantinet attaché à la monarchie, qu'on est curieux de l'aristocratie en général, on se dit mais elle est à la fois moderne et elle vient d'un autre temps. Parce que aujourd'hui, bien évidemment, il y a des présidents de la République, il y a cette modernité, il y a les voitures, les carrosses, c'est fini, et je le regrette, les carrioles avec les chevaux aussi, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, on est un petit peu, pardonnez-moi l'expression, bouffé par tout ça. Et moi, cette Elisabeth II, elle me laisse dans un temps où il avait une élégance, une dignité, un savoir-vivre, une beauté et un faste. Alors, bien évidemment, on peut l'aimer au pas l'épée, mais je trouve qu'elle est ce trait d'union entre ce faste d'antan de cette monarchie qui n'était pas évidemment toute rose, et puis avec ce modernisme qui n'est pas toujours très facile à vivre non plus.
Non, mais elle a eu l'intelligence, c'est ce que je vous disais, de marier la tradition à la modernité. Mmh. Donc, en s'opposant à Churchill, qui ne voulait pas que le couronnement et le sacre soient filmés, elle a montré d'abord son autorité, Churchill pour lequel elle avait une immense admiration, et elle est le seul de ses 13 premiers ministres dont elle a fait un commentaire à son décès, ce qui ne se fait pas, mais elle a dit qu'il était divertissant. Mmh. C'est un mot extraordinaire. Mmh. Alors, la reine n'a jamais été tournée vers le passé. Elle respecte, elle tient à respecter le passé, la tradition. C'est ainsi que la monarchie britannique est un spectacle unique avec ses fanfares,
voilà,
ses parades,
ses carrosses
cérémonies
dorées, qu'on
voilà, voit pratiquement nulle part ailleurs, ou en tout cas qui, pour les Occidentaux, sont très accessibles. Mais en même temps, je vous le rappelle tout de suite, elle prend le vent facilement. Elle, dans les années 60, elle a épousé l'atmosphère du Swinging London de Londres avec l'invention du collant, de la mini-jupe. C'est le temps des Beatles qu'elle va décorer de l'Empire britannique parce qu'ils font un travail fantastique au nom de, dans le fond, de la couronne et qui rapporte beaucoup à la couronne. Elle sera bien plus tard la première à ouvrir le portail internet de Buckingham Palace, à se servir de téléphone portable. Elle est au courant de tout, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elle a renié le passé, au contraire. Et c'est un clin d'œil, un aller-retour permanent. C'est cette cohabitation entre hier et aujourd'hui qui est fascinante. Et quand elle a battu le record de longévité sur le trône de Victoria, elle a, et j'ai commenté cela sur la chaîne Arte, elle a voulu partir en Écosse pour réinaugurer une ligne de train touristique à vapeur avec une locomotive des années 1930, mais c'était une ligne que la reine Victoria avait elle-même inaugurée. Il y a chez Elisabeth II une continuité historique, certaine, dans le respect de la famille, dans le respect du passé, et qui lui permet d'affronter l'avenir. Et il y a un an, comme je le raconte dans mon livre, elle est descendue dans le chantier l'allongement d'un métro très rapide à Londres,
qui s'appellera
elle est descendue
Elizabeth
à la station
Line.
Bond Street, c'est un métro qui va relier Heathrow à la City. Elle avait une tenue de la même couleur que le monogramme de la ligne, qui s'appellera Elisabeth Line, donc elle n'en verra peut-être pas l'achèvement, mais elle accompagne l'avenir, elle est tournée vers le futur sans jamais insulter le passé.
Tout à fait. On peut même dire aussi qu'elle a une certaine largesse d'esprit, puisqu'elle a accepté que son petit-fils Harry épouse une roturière américaine, Meghan Merkel.
Oui, qu'elle défend alors que Meghan commence à avoir une mauvaise réputation, ce qui était prévisible, je l'ai dit à la télévision, j'ai dit c'est une professionnelle, ça risque d'être un petit peu
compliqué,
mais elle défend ses petits-fils parce qu'elle sait ce qu'ils ont vécu, et puis la reine a trop vu les dégâts des mariages arrangés. Alors si, tant qu'à faire, même si c'est un peu bousculé, un peu olé olé, si Meghan a eu un passé un peu chaud, qui n'était pas sans rappeler, il faut le dire aussi, vous imaginez le traumatisme, celui de la future duchesse de de Windsor, c'est-à-dire une Américaine divorcée qui a failli faire vaciller la couronne avec l'abdication d'Édouard VIII, qui était l'oncle d'Élisabeth II et qui a événement tragique qui a précipité l'avènement non prévu du frère d'Édouard VIII, Alberti, devenu le roi George VI, et donc qui a fait d'Élisabeth une princesse héritière, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Donc, je veux dire, la largesse d'esprit de la reine n'est pas le n'importe quoi, mais je répète, sa façon d'épouser l'époque avec un clin d'œil, avec de l'autodérision, vous en avez un sommet fantastique au moment de l'inauguration des Jeux Olympiques de Londres, quand, dans le plus grand secret, n'est-ce pas, elle a tourné un film à Buckingham de 1 minute 12, dans lequel elle joue, pour la première et à mon avis la seule fois de sa vie, son propre rôle, avec un texte très court, hein, ça commence par l'arrivée de James Bond, son plus célèbre agent secret, Daniel Craig en smoking, sa tenue favorite, qui est conduit par un majordome dans le cabinet de travail de la reine. La reine est debout, elle consulte des documents. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. Il n'y aura pas d'autre dialogue. Et ils partent tous les deux accompagnés par une meute de corgis déchaînés, bien entendu. Et pour des milliards de téléspectateurs, on les voit monter en hélicoptère et sauter en parachute, bien entendu. Il s'agit de cascadeurs. Eh bien, cette autodérision et cette façon de revenir à l'humour, à l'état d'esprit très britannique, qui dit les choses avec des understatements, avec des sous-entendus, parce que la reine a beaucoup d'humour, est absolument grandiose. Elle a fait un triomphe mondial et la médaille d'or de l'humour pour ces Jeux Olympiques, c'était pour Elisabeth II.
Oui. Alors, elle a commencé toute jeune, hein. elle s'est impliquée durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est aujourd'hui reine d'Angleterre. Elle est également présidente du Commonwealth. Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui ne sauraient pas forcément ce que c'est que le Commonwealth, vous allez nous l'expliquer, Monsieur Jean Descartes.
Alors, le Commonwealth, qui veut dire les richesses en commun, a existé sous des formes diverses. Disons que c'est le prolongement apaisé de l'Empire britannique. Ça existait même du temps de l'Empire, mais qui réunit des pays qui ont été ou qui sont liés par une histoire commune avec l'Angleterre puis le Royaume-Uni. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces richesses en commun réunissent plusieurs États et pas seulement des colonies ou anciennes colonies de la couronne. Il y a des républiques dedans et il y a des monarchies avec des souverains effectifs, comme par exemple le sultan de Brunei ou de Malaisie. Bon, la reine Elisabeth II en est la patronne. Il y a à peu près 25 États aujourd'hui, plus ou moins, enfin, ça a changé. Il y a d'anciennes colonies comme le Ghana qui en était parti sous prétexte d'atteinte à leur passé par le colonialisme et qui se sont aperçus que c'était idiot et qui sont revenus dedans. Bon, c'est une union économique, linguistique, qui doit beaucoup à la personnalité d'Elisabeth II, auquel devrait succéder, on l'a vu l'année dernière, son fils Charles, il accède au trône. Mais je pense que le prestige personnel de la reine est évidemment exceptionnel, parce que la reine est en même temps, à ce titre et aussi au titre de l'héritage impérial, chef d'État d'Australie, de Nouvelle-Zélande et du Canada. Et c'est sans doute la dernière fois qu'ils n'ont pas, je pense, ces États qui ont l'ancien statut de Dominion, enfin, c'est assez compliqué. Ces États n'ont peut-être pas forcément un membre de la famille royale à la tête de leur État après Elisabeth II. Mais enfin, ça donne une impression, si vous voulez, réelle, d'influence mondiale. Autrement dit, la reine est sans doute, et je répète ce que vous me disiez, c'est le départ de mon livre, la femme la plus connue du monde. Il n'est pas pensable d'avoir une compétition par rapport à son existence. Et pour moi, il n'y a, malgré l'existence d'autres souveraines, chefs d'État, y compris en Europe, avec une femme remarquable, la reine de Danemark,
qui
règne depuis 1972, qui est une femme de très grande qualité, il y a une reine dans le monde, c'est Elisabeth II.
Oui. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après.
Je vous en prie. À tout de suite.
nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour le livre de Monsieur Jean Descartes sur Élisabeth II d'Angleterre aux éditions Perrin. Alors, elle a des enfants, elle a des petits-enfants, elle est également arrière-grand-mère, elle a connu des bons et des mauvais moments, comme tout à chacun. Il y a eu un moment... un des moments tragiques de sa vie où là, elle a perdu dans la popularité, dans le cœur des Anglais, c'est quand Lady Diana, qui est une mythique, une icône aussi, est décédée dans des conditions, comme tout un chacun le sait, tragiques. Ça a été un moment certainement très pénible pour elle et pour l'ensemble du pays, mais pour elle personnellement également, surtout.
Oui, alors pour différentes raisons, parce que la reine... navrée de cette crise supplémentaire, elle a été gâtée parce que la reine est non seulement chef d'État mais chef de famille.
Chef de famille.
Alors depuis l'affaire Margaret jusqu'à Diana en passant par beaucoup de choses, elle a été gâtée, je le répète. Mais elle avait négocié avec Diana un accord substantiel et en lui demandant de continuer à accepter la protection des services officiels britanniques puisque Diana restait la mère d'un futur roi, William.
Bien sûr.
Or, Diana, que j'ai connue, et paix à son âme, était une perverse, une mythomane, et qui jouait avec les médias le jeu le plus infect et le plus dangereux qui soit, du genre, venez à tel endroit, vous me verrez, vous pourrez faire une photo, alors le photographe se précipitait, ou le caméraman, et elle disait, mais je veux pas vous voir, non, non, pas vous, non, c'est fini. Donc, ça a été effrayant. Donc elle crée une effervescence qui a été insupportable pour le prince Charles,
oui.
Parce que quoi qu'il fasse, quel que soit l'endroit où il apparaissait, on ne parlait que de Diana, bon, qui avait fait le pari d'éliminer Camilla, la maîtresse de son mari. Elle le savait très bien et lui, sincèrement, a essayé de respecter sa femme, mais elle a été très vite, si vous voulez, difficile à vivre parce qu'elle était anorexique, elle n'aimait pas la vie à la campagne, ce qui est embêtant quand on est dans la monarchie britannique, etc. etc. Or, j'ai un souvenir particulier de cette soirée tragique, puisque par hasard, mon épouse et moi, nous sortions d'un cinéma dans le sud de Paris, et nous sommes arrivés boulevard des Invalides, où la route nous a été coupée par une ambulance du SAMU de Necker. Il devait être à peu près minuit, 0h10, 0h15, et on apprend rapidement que c'est une ambulance qui va au secours de l'accident dramatique sous le 13e pilier du pont de l'Alma. Bon, on sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas à ce moment-là dans la famille royale que malgré ses frasques, ses défauts, ses amants, ses provocations, y compris avec Dodi Al-Fayed,
oui.
Les photos sur le plongeoir du yacht, etc. pendant l'été, laissant entendre avec un ventre qui pouvait paraître un peu arrondi qu'elle serait peut-être, je dis bien avec des grands guillemets, enceinte. Mmh. Bref, dans tout ça, la reine, qui n'en pouvait plus, n'avait pas réalisé qu'elle était restée, Diana, très populaire. Alors, si Elisabeth II est restée à Balmoral en faisant supprimer les téléviseurs, c'était pour protéger ses petits-fils,
petits-fils
en particulier
oui.
le plus jeune Harry,
Harry,
qui était le plus sensible.
Oui.
Je ne dis pas que l'autre ne l'était pas, mais
oui.
il était le plus atteint.
Oui.
Et il a fallu effectivement que le Premier ministre, Tony Blair, insiste, et on peut dire qu'à la limite il a sauvé le régime, ce travailleur, en disant « Madame, il faut absolument que vous veniez, parce que la presse titrait à la une, mais où est notre reine ? Nous voulons notre reine.
Oui. »
Donc, elle a compris que le traumatisme, qui était quand même assez hystérique, si on veut bien regarder ça avec le recul de l'histoire,
oui.
était dramatique, et elle est revenue à Londres. Et on a vu cette scène incroyable, la reine sortant à pied de Buckingham Palace avec le prince Philippe, le duc d'Édimbourg, et allant vers les grilles du palais devenues des murs de fleurs et d'hommages. Et il a fallu effectivement beaucoup de temps pour que l'opinion ne lui en veuille plus,
oui.
après un discours un peu tardif. Mais il faut dire que même le frère de Diana, le comte Spencer, disait que sa sœur était perverse.
Hein. Oui.
Et la preuve aussi, c'est qu'elle a refusé la protection donc, des services britanniques. Et cette fameuse tragédie au Ritz, ce fameux dimanche d'août, en fait... elle est montée dans une voiture non homologuée dont on ne sait pas d'où elle venait, qui n'a jamais été dans le parc automobile du prestigieux hôtel Ritz. conduite par un homme qu'on a dit ivre-mort, c'était faux. Il n'était pas ivre-mort, parce que le bar Hemingway, où on aurait voulu le voir, était fermé. Et avec un garde du corps amateur qui n'était pas du tout homologué par les services britanniques. Où allait-il, Dodi et Diana, dans cette fuite? J'ai plusieurs hypothèses. Il y en a une, je dis bien au conditionnel. Il y avait peut-être une histoire de drogue et c'était peut-être Dodi qui était coursé. Car on ne s'explique pas d'une façon logique cette fuite aux environs de minuit. Pourquoi partir dans ces conditions en pleine nuit?
Et à
pour quel but s'il n'y avait pas soit une espèce de pari stupide, soit une réelle urgence? Bon, en fait, si vous voulez, Diana n'a pas pardonné à Charles d'avoir fêté l'anniversaire de Camilla. Donc c'était une guerre entre deux femmes et une guerre médiatique. Ce que Diana utilisait très bien. Voilà. Et c'est un jeu extrêmement dangereux, la guerre médiatique.
Oui. Alors, ce qui est aussi fascinant avec Elisabeth II, c'est qu'elle a côtoyé des personnages, on en parlait tout à l'heure, de Churchill. Et quand on pense à Churchill, il est né, si ma mémoire est bonne, en 1874, sous le règne de Victoria. Et on se dit, elle a côtoyé ces personnages qui font partie de l'histoire. C'est vraiment l'histoire avec un grand âge, ça me fascine. Et elle traverse le temps comme ça, en côtoyant tous ces personnages, avec son accession au trône, et puis ce mariage.
Sa grand-mère, la reine Marie, qui était vraiment de l'époque victorienne, fait un lien fantastique, n'est-ce pas? Et, alors, il y a une chose intéressante que j'ai soulignée dans mon livre, c'est que le roi George V, donc son grand-père, avait compris assez rapidement que son fils aîné, donc Édouard, futur Édouard VIII, futur duc de Windsor, calamiteux, n'était pas un homme d'envergure, qu'il était plutôt un noceur, qu'il était joyeux, inconsistant, très mondain, multipliant les aventures avec des femmes mariées, etc., etc. Et donc, avait envisagé, ce qui n'était pas du tout prévu, que sa petite-fille, Elisabeth, pourrait lui succéder. Donc, il avait eu ce pressentiment, et en 1933-34, Elisabeth n'a pas 10 ans, elle est déjà appelée par son grand-père pour figurer sur le fameux balcon de Buckingham Palace et apprendre ce qu'on appelle le Royal Wave, le salut royal. Donc ça venait de loin. Alors, à partir du moment où son oncle a abdiqué dans les conditions tragiques que l'on sait, où George VI, son père, le roi qui bégayait, monte sur le trône et sera héroïque et avait constitué avec Churchill un duo politico-diplomatique et militaire fantastique pendant la guerre, Elisabeth est donc la princesse héritière. Et donc elle a été formée très tôt et dès 1942, devant la situation militaire plus qu'inquiétante, Buckingham Palace avait été bombardé, une bombe avait heureusement pas explosé, sinon elle aurait tué le roi. C'est le moment où la reine mère, enfin la fameuse Queen Mum a dit, maintenant je peux regarder en face les quartiers populaires de l'East End, nous aussi le palais nous avons été bombardés. Eh bien la reine a commencé à voir, à la demande de son père et avec lui, les dossiers d'État, for your eyes only, pour vos yeux seulement, et à être formé au métier de chef d'État et d'apprendre le secret de ces informations. Et j'en profite pour vous dire que ce qui est fascinant dans le personnage d'Elisabeth II, c'est son astreinte à la discrétion.
Oui.
Elle sait tout et ne peut rien dire. Et quand elle vous reçoit, par exemple, elle sait tout sur vous, mais vous demandera simplement si vous avez fait bon voyage, si tout va bien. Et ça, c'est assez fascinant parce que elle en a appris des choses. Elle apprend par exemple que Sir Anthony Blunt, un fantastique collectionneur et historien de l'art, spécialiste de l'art classique français, notamment de Nicolas Poussin, très connu des experts, y compris au Louvre, qui avait été agent secret pour le compte du roi George VI pendant la guerre en Allemagne, était devenu un agent double au service de Moscou. Un homme qu'elle avait décoré, qui faisait partie dans le fond de la galaxie dont on appellera les quatre de Cambridge, etc. Bon, et cette, ces menaces de l'Union soviétique, avec des révélations supposées ou vraies, vont durer jusque sous le gouvernement de Mme Thatcher. Donc, l'accumulation de secrets en tout genre, et vous avez ce sommet jusqu'à présent, que j'ai commenté d'ailleurs sur une chaîne d'information continue, parce que personne n'y avait pensé.
Oui,
23 juin 2016, résultat du Brexit. Que dit la reine ? Je suis toujours là. Ce qui est sobre, un constat, mais d'une force totale qui laisse bien comprendre qu'elle n'a pas envie de voir désuni le royaume qu'elle a chéri en arrangeant toutes les choses avec les Irlandais, les Gallois, quand Charles est devenu prince de Galles, et l'Écosse qui lui est chère. Sa mère était écossaise, elle adore l'Écosse, et elle a reconnu, la reine a reconnu l'Écosse comme nation, mais pas comme État. Bon, et voilà où nous en sommes au moment où nous parlons, ça doit être très douloureux.
Alors on apprend dans votre livre, et je laisse à tout à chacun de le découvrir, mais qu'elle aime les chevaux, qu'elle aime les chiens. C'est illustré de magnifiques photos qui sont toutes commentées. C'est vraiment très beau, c'est vraiment un très beau livre. Moi, j'ai envie de vous dire en conclusion, au travers de votre livre, j'ai senti de votre part une passion et beaucoup d'affection pour cette reine, Monsieur Jean Descartes.
Oui, beaucoup d'affection. Je ne suis pas autorisé à révéler des rencontres, je n'ai que le droit de parler d'une audience avec le prince de Galles à Buckingham Palace, mais c'est une femme impressionnante, de petite taille, qui vous regarde et vous pensez à tout ce qu'elle a vécu. Les cauchemars, y compris par exemple l'incendie du château de Windsor, la fameuse Annus Horribilis.
Ah oui.
Heureusement, des moments de joie et la joie d'être avec ses petits-enfants, bientôt ses arrière-petits-enfants. Son discours de Noël est le seul qu'elle puisse écrire sans l'aval du gouvernement, montre combien elle est attachée à la famille, au passé, qui fait le lien avec le présent en disant « Regardez les photos en noir et blanc ». Au moment de mon couronnement, quand la caméra de télévision était énorme et l'écran tout petit, et maintenant en couleur, etc. La reine, je vous l'ai dit, mélange très très harmonieusement, avec beaucoup de finesse, d'intelligence, toutes les modes, tous les avantages, en évitant les inconvénients des époques. Elle est allée à un défilé de mode pour la première fois il y a 2 ans, elle qui ne semble être hors mode, mais qui est éternelle. Et c'est un personnage qui aura marqué l'histoire, donc depuis 67 ans, avec tout ce qu'elle a vécu, ayant participé à la guerre comme conductrice d'ambulance,
sachant
mettre les mains dans le cambouis au sens propre.
Oui, il faut rappeler
ensuite,
qu'elle est née
la princesse héritière qui dit que ma vie soit longue ou courte, je serai au service de la nation. 13 premiers ministres, dont 1 à 2 reprises. Une dizaine de présidents de la République, des papes, des voyages et un humour formidable. Je vous en donne un exemple. Quand elle reçoit un cow-boy devenu président américain, Ronald Reagan, l'emmène faire du cheval à Windsor, parce qu'ils ont une passion commune pour le cheval, et le voyage d'État au retour, de Washington à San Francisco, il n'arrête pas de pleuvoir, il tombe des cordes, et la reine, dans son discours, avec beaucoup d'humour, dit « Je savais que certaines habitudes britanniques avaient franchi l'Atlantique, mais j'ignorais que le mauvais temps en faisait partie.
» C'est formidable. Il faut rappeler, pour conclure, qu'elle est née en 1926, donc à chacun de faire le calcul pour son
elle
âge.
Elle a 92 ans.
92 ans. En tout cas, c'est un livre...
93, et voilà.
C'est un livre magnifique sur Elisabeth II aux éditions Perrin. Rapidement, vos projets, je vous retrouverai dans quelques mois pour quel livre ? Dites-moi.
Ah, vous savez, je n'annonce jamais ce que je suis en train de faire tant que le bébé n'est pas viable et tant que je n'ai pas donné le bon à tirer. je dois dire que l'affaire des gilets jaunes ne m'arrange pas entre autres actuellement parce qu'il a bouleversé un peu mes programmes à la fois de promotion et de recherche. Mais je suis en plein travail et puis j'anime des voyages aussi. Je repars pour ma chère Bavière royale et dans l'immédiat, je descends au salon de la biographie à Nîmes ce week-end.
Eh bien, écoutez, j'espère que je vous retrouverai dans quelques mois pour une belle histoire encore.
Ça fait très plaisir de vous entendre, de vous retrouver. Je suis très touché que vous vous souveniez de nos très bons échanges. Et merci, parce que Élisabeth II, je le répète, j'ose le répéter, est un livre qui n'existait pas en français ni en France.
Eh bien, Élisabeth II aux éditions Perrin de Monsieur Jean Descartes. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Et merci encore de votre fidélité.
À bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir.
Au revoir.